dispute. Ce soir, la musique. Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino, Camille André, Coppelia Ménardi, prise de son assurée ce soir par Jean Frédérics, réalisation Thomas Beau. Autour de moi, ce soir, Pascaline Potdevin, Olivier Lam et Christophe Comte, pour parler ensemble de Mien, l'album de Mien, Song for Alpha de Daniel Avery et Empty Words de White Horses. C'est Coppelia Ménardi qui surveille ce soir les fils Twitter et Facebook pour donner à entendre les commentaires que vous auriez sur les albums dont nous allons parler. Puis toujours des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute. Ce soir, des invitations pour Nul homme n'est une île. C'est un film de Dominique Marché qui a eu le grand prix du Festival de Belfort et qui sort demain dans les salles. Alex Mas de Black Angels, Tom First de The Arrows, Richie Deere d'Elephant Stone et John Mark Lapham de The Earlys ont tous joué les uns avec les autres au fil des années. Ils ont donc fini par donner naissance à un groupe baptisé Mien. On vient de voir atterrir dans les bacs un album éponyme. On en parle ce soir après avoir écouté un extrait, en l'occurrence Black Habit. C'est le morceau Black Habit, extrait de cet album du groupe Mien, l'album baptisé Mien. Et c'est Pascaline Potdevin qui commence à nous en parler. Mien.
Mien ou Mayen, je ne sais pas, vu que moi, c'est...
Ouais.
Je sais pas, en gros, pour l'anglo-saxon, on peut peut-être penser que ça se prononce Mayenne. En tout cas.
Mais ça voudrait dire quoi?
Alors là, aucune idée.
Alors.
Mais,
bon.
J'avoue, j'ai pas cherché, mais moi, c'est un disque sur lequel j'ai eu un énorme.
Des hypothèses,
coup de
cœur. Messieurs?
Moi, j'ai cherché, j'ai pas
Olivier
trouvé.
Lame.
Non, mais je me demande si c'est pas genre du gaélique ou un truc comme ça.
Alors, là,
en théorie, complètement.
Alors, ce serait peut-être Mariam, un truc comme ça. Bon, Mien, moi j'appelle ça Mien parce que les gens, ils vont aller chez le disquaire, ils vont regarder, voilà, Mien, ça s'écrit. Ami,
déjà
qu'il n'y
a pas de nom sur la pochette.
Ouais. Bon, on va la décrire. Alors, on y revient.
Mien,
Mien, Mien.
Ouais, on ne sait pas, mais en tout cas, moi, c'est un disque que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu un coup de cœur dès que je l'ai écouté. Donc, c'est un album de copains qui jouent entre eux, qui sont tous comme ça, dans toute la même veine. Pas exactement la même, mais tous dans la veine psychédélique, qui jouent ensemble depuis 10 années, qui se croisent au fil des festivals, au fil de concerts, qui jouent les uns pour les autres dans leurs groupes respectifs. Donc ça donne un super groupe. L'écueil du super groupe, c'est pas, ça peut donner un truc de copains qui se font plaisir, mais ils se font plaisir qu'à eux-mêmes, et du coup, les autres, le public, pour moi, est un peu perdu. Mais là, je trouve que ils nous font plaisir aussi. En fait, c'est un disque qui est comme un enfant, dans le sens où on reconnaît dans ses traits chacun de ses parents. Alors, on a le psychédélisme un peu hanté des Black Angels. On a le côté indus, presque gothique de The Aurore. On a le sitar de Richie Dirge dans Elephant Stone. On a le côté un peu plus électro dans The Earlys. On a toutes ces choses-là qu'on reconnaît de chaque groupe, mais Mayenne, ça a donné à chacun de ces éléments l'opportunité de pousser la jauge du psychédélisme dans des retranchements où il ne pouvait peut-être pas aller dans son propre groupe. Du coup, ça donne des voyages un peu différents, des excursions comme ça vers le kraut, vers le drone, vers le son baggy de Manchester sur le premier titre qui est extrêmement bon, trop long pour avoir
on
été passé,
bien passé
ce soir.
Mais c'est vrai qu'il est un peu long
avec
quand même.
Des espèces de déploiements de sitar comme ça. Alors, il y a un côté très presque cliché dans le psychédélisme parce que tout est un peu aligné. Donc on a du sitar, on a un titre dont justement ce premier titre avec ce sitar qui s'appelle Earth Moon, donc la Terre, la Lune. Là, on est complètement dans la mystique avec les planètes, les étoiles. On a un titre qui tient sur une longue note comme ça, une longue note développée. Juste une note, qui à mon sens est plus efficace pour que toutes les cassettes de méditation qu'on nous vend en ce moment, pour notamment ma génération et ma catégorie socio-professionnelle.
Bah, si on voulait vendre,
moi je préfère
pas.
Vraiment écouter cette longue note de Mienne qui m'aide beaucoup mieux et qui débouche sur quand même un titre qui s'appelle Hocus Pocus, donc Abracadabra des anglo-saxons, où on entend le chanteur dire I feel so high. Ah bon, ben voilà. On n'avait pas remarqué. Nice for you to stop by, merci d'être passé, ben on t'en prie. Donc voilà, il y a toutes ces choses un petit peu clichés, mais à côté de ça, voilà, ils expérimentent le son baggy Manchester, le côté kraut, le côté drone. Tom Furse, qui est le clavier de The Aurores, on reconnaît son côté un peu très solennel, des grosses percus qui tapent, des programmations comme ça qui barrissent presque. C'est un côté très outrancier, presque. Mais justement, je parlais d'un enfant, mais c'est peut-être même plus un adolescent dans le sens où à la fois il a des clichés complètement assumés et à la fois il va dans l'outrance, dans un truc complètement libéré et décomplexé. Et voilà, moi c'est pour ça que j'aime beaucoup ce disque, parce que je trouve très libre et très pop aussi. Il y a des chansons qu'on retient, qu'on réécoute. C'est très sexy aussi, très groovy. Et voilà. Donc
ça fait une belle liste de qualité déjà pour
cette première
prise de parole.
Je dirais non. Et puis je finirai juste en disant que c'est pas un disque complètement adolescent dans le sens où effectivement c'est très maîtrisé. Voilà.
Olivier Lame, goûtez-vous Mien, Mayenne, Mienne, comme vous voulez.
Je vais reprocher des choses à ce disque que je ne reprocherai pas aux deux autres, alors que je pense que je pourrais. Enfin, on peut faire un lien dans cette programmation.
Okay, cohérent,
ce soir,
c'est vous.
Non, c'est bizarre le rock psychédélique. On va utiliser cet adjectif, voilà, qu'on utilise beaucoup trop ces dernières années à mon goût. Souvent, on s'étonne de trouver ça bien malgré tout, c'est-à-dire malgré le fait que ça ressemble à, on va dire, presque 3 générations, 4 générations de groupes, soit on se conforte dans l'idée que c'est une forme qui n'a plus aucun intérêt et qui est donc devenue complètement stérile. La question est toujours savoir pourquoi ça penche plutôt d'un côté ou de l'autre. J'ai peut-être un début de réponse par rapport à ce que disait Pascaline tout à l'heure, à savoir, elle parlait d'un adolescent, voilà, elle comparait ça à un truc d'adolescent. Moi, je trouve que c'est un truc complètement d'adulte, complètement complètement geeks et qui ont des références. Vous savez, un peu comme un papa qui essaie de persuader son fils que
on va faire toute la famille,
que les dessins animés de son époque, que les jouets de son époque, que les Playmobil des années 80 sont beaucoup mieux que les Lego Star Wars d'aujourd'hui, et le gamin le regarde un peu avec pitié.
S'il va voir Ready Player One, vous aurez remarqué que c'est dans l'air du temps aussi.
C'est dans l'air du temps. J'ai l'impression que c'est un sujet qu'on aborde à chaque fois qu'on fait une dispute musicale.
Et séries, et cinéma.
La question, c'est pourquoi j'entends de l'énergie et vitale dans Spaceman 3, et là, pas du tout. Je vais pas leur faire un procès en bourgeoisie ou je ne sais pas quoi, parce que je pense la question n'est pas là. Mais pourquoi ce truc-là me paraît complètement factice et plastique, alors qu'un groupe comme les Australiens de King Gizzard and the Lizard Wizard, je vais leur faire parce que c'est pas King Gizzard and the Lizard Wizard, qui est un groupe qui a sorti 5 albums l'an passé, c'était un défi un peu fou qui s'était lancé, me paraît être complètement à l'heure de tout ce qui est plus contemporain.
Et vous écoutez les 5 disques du groupe dont
assez obsessionnellement en plus d'ailleurs.
Les 5,
et il y en a des très très longs là-dedans. C'est un autre sujet qui me bizarre.
Vous l'auriez proposé pour la dispute, j'aurais découvert ça là, vous m'intriguez. Bon.
Ils vont en sortir un dans 2 semaines.
Ce qui est bizarre, c'est que les moments que je préfère sont ceux qui me rappellent les choses, je pense, les moins intéressantes du début des années 90, dans la vague,
la vague
Manchester, les Soup Dragons ou Ned's Atomic Dustbin. Il y a un truc, dès que la cita, ce breakbeat un peu lent, on n'est pas au niveau des Stone Roses, à mon avis. On est vraiment plus du côté de Ned's Atomic Dustbin, pour les gens qui s'en souviennent, qui était vraiment la 3e, 4e division des groupes de cette époque. Je suis un peu méchant parce que c'est pas désagréable. Comme c'est un disque qui est quand même très produit, très très apprêté, etc. J'attends de ce genre de disque qui m'emmène dans une sauvagerie. Mmh. Et là, je sens un truc extrêmement apprêté. Donc en fait, j'ai du mal à rentrer effectivement dans ce bourdon dont parlait Pascaline tout à l'heure. Cette note, j'ai besoin que ça dure 3 heures et surtout que ça sature dans tous les coins. Là, moi, je trouve ça assez vide en fait.
Bon, voilà qui est fait. Mien, Christophe Comte.
Je vais faire la synthèse.
Bien sûr, la troisième voie.
Entre les deux, je sais pas trop quoi penser de ce disque que je trouve pas désagréable, parce que moi j'aime bien le psychédélisme, ça m'a toujours rendu joyeux. Enfin, j'en écoute toujours, même des contemporains, même des mauvais d'ailleurs, je trouve que souvent ils sont meilleurs que les autres. C'est vraiment pour dire quelque chose. Mais là, en l'occurrence, ce qui est intéressant, c'est la somme de tous ces gens. Au départ, je l'écoutais sans savoir qu'il y avait tous ces protagonistes. Mmh. Et effectivement, alors moi, j'ai pas la distinction qu'a Pascaline pour voir lequel fait quoi, etc. Parce que déjà, dans leur groupe respectif, je sais pas trop ce qu'ils font. Mais j'ai trouvé que c'était un disque qui commençait très bien, notamment ce premier titre avec les sitars et tout ça. Bon, c'est un peu cliché, effectivement, mais c'est plutôt bien fait, c'est bien écrit. Le deuxième qu'on a écouté également, qui est très Silver Apples, pour le coup, plus ce psychédélisme-là des années 60, mais hors de la sphère San Francisco, etc. Après, je trouve que ça s'affaisse un peu. Il y a un côté gothique qui prend le dessus. Alors ça, c'est sans doute The Horrors qui arrive un peu. Même si le dernier The Horrors s'est détaché du gothique, je trouve que là, on retrouve moi ce qui me dérangeait chez The Horrors dans les précédents albums. Et contrairement à un disque que moi j'aime beaucoup, mais vraiment qui est un autre super groupe qui était sorti il y a quelques temps, qui s'appelle BNQT, où il y avait les gens de Midlake, de Granddaddy, de Franz Ferdinand, où là c'était une association assez flamboyante de plus pop, que je trouvais vraiment réussi pour le coup, et on reconnaissait là pour le coup chaque ADN. Là, je trouve qu'au bout d'un moment, on est sur un truc très compact, assez sourd, assez lourd même, et un petit peu ennuyeux, surtout que évidemment, moi j'ai tendance à penser que le psychédélisme renaît systématiquement de ses cendres, parce que il y a des nouvelles générations qui arrivent qui n'ont pas eu accès au psychédélisme des années 60, ni de celui des années 70, ni celui des années 90, et qui ont toujours l'impression que cette musique, qui est quand même sa vertu, est un trip et amène quelque part. Et donc je pense que les jeunes auditeurs sont toujours sensibles à ça. Et c'est un disque qui peut effectivement s'écouter comme ça pour des gens qui n'auraient pas écouté les références auxquelles ça se rattache, qui peut vraiment voilà, être un trip assez intéressant. Mais quand on est un peu de mon âge et quand on a reconnu beaucoup, c'est pas très impressionnant, c'est pas extrêmement bien produit. Moi, j'ai trouvé que par moments, c'était très confus et que les intentions soniques étaient primées sur les chansons, et je trouve que c'est un peu dommage. J'ai reçu au même moment, ou en tout cas dans les mêmes eaux, la réédition de Forever Changes de Love, et c'est vrai que les deux à côté, il y a quand même, c'est quand même très très loin, quoi. En termes d'écriture, je pense, et aussi en termes de production.
Bon, je vais proposer une quatrième voix alors, peut-être. Enfin, moi je vais dire la même chose des 3-10 dont on va parler ce soir, donc c'est-à-dire que plus je les écoute et plus je les apprécie. Donc je dévoile absolument mes batteries pour la suite, mais je trouve qu'ils gagnent au fil des écoutes, et la preuve c'est que il y a vraiment plusieurs morceaux que j'aurais aimé diffuser ce soir pour partager ça avec nos éditeurs. Je ne dirais pas que c'est le cas de l'intégralité de l'album, parce qu'il y a effectivement des sautes, des coups de mou, enfin des choses qui accélèrent de temps en temps. Ce son, moi, que j'ai trouvé effectivement un peu rentré de force comme ça, un peu brouillon, mais qui peut correspondre. Moi, c'est pas absolument mon goût. J'ai pas d'ailleurs de goût particulier pour l'Europe psychédélique non plus, mais j'ai trouvé en tout cas relativement prospectif pour un disque qui regarde vers le passé. Il me semble que quand même il propose quelque chose. Je dirais pas que je vais réécouter ça pour les siècles des siècles, hein, Olivier Lam, mais j'ai pris goût, alors que les premières écoutes, ou la première écoute en tout cas, était presque pénible. Vous comprenez ça, Pascaline Potvin ?
Non, oui, je comprends, parce que moi qui ai, au contraire, la première écoute a été tout de suite un vrai coup de cœur.
Vous l'aimez de moins en moins, maintenant.
Non, je l'aime aussi, mais je l'aime avec plus de discernement. Effectivement, je suis d'accord, il y a des chansons qui sont moins fortes que certaines. Je suis entièrement d'accord sur le fait qu'on tient pas du tout un classique, on va pas comparer ça au grand classique du rock psychédélique, pardon. Mais parce que c'est aussi un disque pop, alors je suis d'accord aussi avec Christophe sur le fait qu'on n'a pas une écriture très sophistiquée sur les chansons, mais il y a toujours quelque chose qui vous accroche dans chaque titre.
Il y a une efficacité souvent.
Voilà, c'est pop dans le sens où c'est très efficace. Quant à savoir, moi, ce que dit Christophe est très intéressant sur le fait que le psychédélisme ne meurt jamais. Et c'est vrai que c'est un disque, peut-être qu'il faudra encore un petit peu de recul, mais c'est vraiment une scène qui est toujours très très vivace, que ce soit en Australie ou même en France. Il y a plein de groupes de générations qui arrivent aussi, qui continuent à sortir des disques, et j'aimerais savoir à un moment pourquoi est-ce que ce courant musical, le psychédélisme...
C'est les drogues, hein, ça.
C'est les drogues aussi, peut-être, moment, ouais, ça, mais... Ça s'explique comme ça. Contrairement voilà, au rock garage qui est un petit peu enterré là depuis 10 ans, quoi, le psychédélisme, ça revient tout le temps.
Et pourtant, il y a toujours des garages.
Et il y a toujours des garages.
Non, mais
par exemple, quand tout à l'heure, Olivier parlait de Space Winfrey ou de Spiritualize, ce genre de groupe arrivait à un moment où on avait l'impression vraiment qu'ils prenaient les choses à zéro, c'est-à-dire qu'ils reprenaient le fil en coupant ce qu'il y avait eu avant et en réinventant complètement cette musique, quitte à aller dans des dissonances, dans des progressions qui étaient parfois assez difficiles à suivre, mais au moins il y avait quelque chose d'urgent, un peu dangereux, même quand on les voyait sur scène, etc.
Ils sont pas nés dans la même époque musicale.
Voilà,
non plus,
là, hein. J'ai l'impression qu'on est dans la cosmétique et que beaucoup s'achètent une panoplie psychédélique.
Ça, c'est vrai.
C'est quand même le genre musical qu'on retrouve disséminé dans à peu près tous les autres genres. Aujourd'hui, on peut parler de techno-psychédélique, on entend du psychédélisme partout. D'ailleurs, dans les 3 disques de ce soir, on en entend. Et ça, c'est à la fois une grande victoire pour les pionniers de ce genre, de fait d'avoir fait quelque chose qui perdure autant, mais c'est aussi quand même l'écueil, c'est d'arriver à avoir des disques qui se ressemblent quand même beaucoup, et parfois il nous arrive les uns et les autres de recevoir des piles de disques de certains distributeurs indépendants qui sortent énormément de disques, et quand on en écoute 10 à la suite, on en voit 3 ou 4 qui sont quasiment les mêmes, avec les mêmes pochettes, les mêmes instruments, la même intention, et ça c'est un peu gênant, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut faire ça. Alors qu'à une époque, c'était quand même réservé à des gens qui avait des idées musicales, certes parfois, qui étaient, disons, développées par certaines substances, je me répète, mais
c'est vrai,
c'était ça au départ. Et après, c'est devenu, voilà, on a l'impression qu'il y a des logiciels qui permettent de faire un son comme celui de...
C'est le cas, oui.
Et donc après, ça surprend moins, on va dire, d'entendre des disques comme ça.
Je crains que il n'y ait pas de prochain Summer of Love, ce ne sera pas pour 2018,
On l'attend toujours, mais généralement c'est tous les 20 ans, donc ça aurait dû être là l'année dernière, mais bon, pas vu arriver.
Un peu de retard. Vous voulez ajouter un mot, Olivier Lam?
Non, mais moi, c'est encore une fois, j'ai pas envie de charger la mule, mais c'est juste que j'entends 10 fois plus de folie psychédélique au sens propre du terme, c'est-à-dire qui change l'esprit quand on écoute quand on écoute une chanson dans la musique d'Ariel Pink, par exemple, que dans cet album que finalement je trouve très poli, très voilà, je suffit pas de s'asseoir en tailleur avec un sitar et une lavalampe pour que les gens s'élèvent. Voilà, moi j'écoute n'importe quelle chanson de Cannes et je pars tout de suite très très vite très loin, et là je reste un peu dans mon fauteuil.
Oui, encore une fois, il ne faut pas les écraser non plus.
Non, évidemment,
mais
moi,
trop grande.
Non, mais
pour moi, ce disque a eu une vertu, c'est de me rappeler au souvenir de The Earlys, que j'avais un groupe que j'adore et que j'avais un peu oublié.
Et moi, de m'avoir moi, que je connaissais pas, et du coup, j'ai découvert. Donc,
à partir de Mayen, on découvre aussi peut-être d'autres musiques. Le disque est sorti chez Rocket Recordings Different. À suivre dans la dispute, Daniel Avery et White Horses.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute consacrée ce soir à la musique avec le nouvel album de Daniel Avery intitulé Song for Alpha, l'ancien petit prince de la techno a bâti son royaume à la vitesse de la lumière des dance floors. Drone for Logic, son premier album, était sorti il y a déjà 5 ans, tant dire une éternité. On écoute une des pistes du nouvel album intitulé Clear.
Daniel Avery, le morceau qu'on vient d'écouter s'appelle Clear. C'est le cas, c'est un nouvel album. Song for Alpha pour le DJ, musicien, globetrotter, Olivier Lam. Premières impressions sur ce deuxième album?
Je vais continuer sur ma présentation binaire. Il y a deux types de disques de musique électronique. Il y a ceux avec lesquels on fait sa vie et ceux qui disparaissent. voilà, parmi ces derniers, il y en a qui vont vous en mettre plein la vue, mais qui disparaissent quand même. Dans la liste des disques avec lesquels je vis depuis... très longtemps, il y a des disques de Speedy J comme Public Enemy No. 1, Tango Invective de Music, Sheet One de Plastic Man, Advance de LFO, Selected Ambient Wars Volume 1 de d'Aphex Twin. Mm. Il se trouve que ce dernier disque là d'Aphex Twin vient de fêter ses 26 ans. que les autres disques dont je viens de parler ont à peu près 20 ans,
oui.
Et que ce disque avec lequel il se trouve que j'ai la chance de vivre depuis le mois de novembre.
Ah oui, j'allais dire voilà. Il n'a pas 20 jours, mais pour vous, beaucoup plus.
Pourrait être sorti effectivement en 93, 94. Donc ça fait plein de mauvaises raisons d'aimer ce disque, mais il se trouve que vraiment il est, je le trouve vraiment inépuisable. Mais peut-être parce qu'il fait battre quelque chose, de, on va dire, il fait battre mon cœur d'une manière un petit peu biaisée. Mais je pense vraiment que ce fan de My Bloody Valentine, assez typique du sud de l'Angleterre, parce qu'il vient de Bournemouth, qui est une petite ville côtière, ce qu'il fait cet héritage, on va dire, d'une techno mélodique anglaise, on va dire techno hein, pour simplifier, est tellement, j'ai envie de dire, il y a tellement de cœur, il y a tellement de ça vibre tellement fort que il arrive à précipiter ça dans un disque qui en devient extrêmement contemporain, qui est vraiment un disque obsessionnel, mais qui s'articule extrêmement bien. Tous les morceaux, dont certains sont extrêmement référencés à Plastic Man, à LFO, celui qu'on vient d'écouter. Marc Bell est décédé il y a 3 ans maintenant, donc ça fait vibrer quelque chose en plus d'assez fort. C'est vertigineux de penser qu'on parle de musique électronique encore comme de quelque chose de nouveau. Là, voilà, le fait qu'on mette de la techno là ce soir sur France Culture, j'imagine qu'il y a des gens qui vont se dire que c'est très audacieux.
Alors que 20 ans et plus,
voilà,
c'est le cas.
Le premier album d'Aphex Twin vient de fêter ses 26 ans. C'est quand même assez vertigineux.
Je pense qu'on n'a pas trop tardé à diffuser.
C'est pas le disque de musique électronique le plus, on va dire, contemporain et le plus tourné vers un inouï et vers un avenir qui est sorti ces derniers temps. Mais moi, je pense que c'est vraiment un des plus beaux et un des plus vibrants. Voilà.
Christophe Comte. Prends sa respiration et son élan.
Oui, moi j'avais un peu oublié Daniel Avery parce que je vais pas tellement dans les clubs, il faut bien dire ce qui est, et donc son premier album daté d'il y a 5 ans, donc c'est vrai qu'à l'époque c'était un disque très important, hein, logique. Pour l'histoire de la techno, c'est un repère quand même. Mais quand j'ai écouté celui-là, j'ai eu l'impression qu'il ne s'était pas passé 5 ans, mais 6 mois. Parce qu'effectivement, il y a quelque chose enfin, ce qui est d'ailleurs toute la gloire de Daniel Avery, c'est d'avoir tracé un sillon assez rectiligne, assez pur, d'une musique sans vraiment de concessions, sauf que entre les deux disques, puisqu'après il a fait des DJ Kiss, il a fait beaucoup de choses qu'on peut écouter par ailleurs, mais sur la longueur d'un album, donc on peut dire quand même qu'il s'agit d'une œuvre plus construite, il a intégré des choses qui, je pense, étaient de ses influences d'origine, notamment de l'ambiance, des choses plus inspiré de Eno, de ce genre de musicien-là. Donc c'est un disque qui est effectivement plus riche, plus dense, un peu plus sombre aussi, même si le morceau qu'on a entendu là est extrêmement gai. Après, je dois dire, pour être tout à fait honnête, que je me suis un peu ennuyé par moments, parce que j'ai trouvé qu'il y avait des morceaux justement où cette magie qu'on pouvait entendre sur certains titres j'avais le sentiment qu'elle allait se dissoudre un peu dans quelque chose de plus convenu, dans une musique qu'on a tellement entendue sous d'autres formes, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment la techno
encore une fois, pour faire un cours sur, sur le genre, à intégrer vraiment le paysage sonore de partout. Et donc, du coup, cette musique-là, qui à l'époque était tellement novatrice, tellement sauvage, aujourd'hui est beaucoup domestiquée par beaucoup de genres, par beaucoup de médias. Donc, du coup, il y a quelque chose qui ne surprend plus. Et ça, c'est un peu embêtant, je trouve, dans un disque de musique électronique en 2018, de ne pas être plus audacieux que ça. Et en même temps, je ne vois pas beaucoup d'autres qui sont plus audacieux. C'est-à-dire qu'on arrive peut-être aussi là à quelque chose qui est de l'ordre de la... quand on a une musique qui a 20, 25 ans, 30 ans, on arrive un peu au bout d'un cycle et on se demande quels sont les musiciens qui vont la rénover, la réinventer. Et sur ce registre-là, qui est quand même assez serré, c'est très difficile d'entendre des choses qui sont vraiment bluffantes. Ce disque-là m'a pas bluffé plus que ça. En revanche, là où je suis d'accord avec Olivier, c'est que c'est un disque qu'on écoute de manière très hypnotique. Au bout d'un moment, il y a des choses qui imprègnent de manière très forte. Et ça, je trouve qu'il a cette vertu-là. Après, il aurait mérité peut-être, même s'il a mis 5 ans à le faire, il aurait mérité de se donner quelques mois de plus et peut-être aboutir des morceaux avec des voix notamment, soit assez intéressant. Peut-être qu'il n'y en a pas assez, qu'il aurait pu y avoir plus de choses et peut-être plus de ruptures, je trouve, dans ce qu'il sait faire naturellement. Je trouve qu'il y aurait eu peut-être nécessité à bousculer un peu cet ordonnancement parfois... assez classique et pas si audacieux que ça.
Pascaline Potvin, à présent, sur ce disque de Daniel Avery.
Moi, ce qui m'a frappé, c'est que je trouve que c'est un disque d'une extrême élégance, en fait. J'ai trouvé ça vraiment très sophistiqué, très subtil. Ça m'a rappelé quelque chose que j'ai lu dans un portrait qui a été fait de lui à l'époque de la sortie de son premier album, où il racontait que quand il partait de Bournemouth, quand il était plus jeune, pour aller dans ses premières soirées en club à Londres, où il allait voir Errol Alkan, Andrew Weatherall, il avait été frappé par leur élégance à eux, leur élégance sonore et vestimentaire aussi. Et en écoutant ce disque, je me suis dit, effectivement, on rentre pas dans un club où tout le monde a un t-shirt mouillé. On écoute quelqu'un qui a un t-shirt en coton peigné, et c'est très beau, et ça va pas sentir la transpiration. Je dis pas ça de manière négative, oui, oui. Parce que voilà, c'est d'une élégance folle. Voilà, on voit bien l'image. Non, mais ça pourrait être négatif, mais non. C'est un disque d'une élégance folle où chaque élément est maîtrisé avec une subtilité incroyable et qui m'a vraiment plu. On n'est pas dans des textures grainées, on est limite dans des textures poudrées sur certaines nappes de synthé. Le son qu'on a entendu à ce battement sur Clear, c'est presque, moi ça m'a fait penser presque au battement d'un insecte auprès duquel on aurait approché un micro. Il y a des textures perlées comme ça, on n'est pas dans des flashs de lumière stroboscopiques, on a des nappes de lumière, on revient dans l'ombre. Parfois, on a l'impression de rentrer carrément dans un club vide où on n'entendait pas. Voilà, c'est très, très subtil, très, très sur le fil. Et ça, je trouve ça vraiment extrêmement beau. Après, de la même manière, on n'a pas des chansons qui sont faites pour danser, des chansons qui sont faites pour être écoutées au casque de manière très introspective. On est toujours dans cet entre-deux. En lisant les circonstances de composition et d'élaboration de cet album, j'ai compris. Effectivement, Daniel Avery dit lui-même que c'est un album qui a été fait entre les nombreuses soirées, les nombreux sets de DJ qu'il donne maintenant autour du monde. Je crois qu'il en fait 2 ou 3 par semaine. Il a été aussi composé et écouté dans son studio au bord de la Tamise. Il l'écoutait au casque en marchant comme ça dans Londres. C'est une vision un petit peu romantique. En fait, ça, c'est un DJ qui est maintenant une persona comme ça de musicien romantique qui se ressent aussi dans ce disque. Et du coup, ce disque un peu entre deux, comme ça, très mélancolique, très presque le disque d'une sortie de club ou d'une sortie de rêve. Parfois, je rejoins Christophe dans ce qu'il a, ce côté un petit peu insaisissable. La première écoute, j'ai eu du mal à être transportée. C'est venu à la deuxième, à la troisième écoute. Et là, maintenant, oui, c'est un disque que je trouve vraiment extrêmement beau. Donc voilà, pour son élégance, pour sa subtilité et pour sa mélancolique.
Oui, parce que il me semble que ce disque-là, il est nourri quand même justement de cette vie de Daniel Avery, de ces 5 ans qui séparent Run for Logic de ce disque-ci, c'est-à-dire de voyages, d'aéroports, de chambres d'hôtel, de sets, de nuits. Enfin, il y a quelque chose d'une densité d'expérience, de vie, moi, qui me semble être infusée ou distillée dans ces morceaux-là, et qu'effectivement, il y a quand même ça raconte beaucoup d'histoires, et je ne parle pas des morceaux avec les voix, qui sont d'ailleurs, il faut que je réécoute mieux, parce que ce ne sont pas ceux qui m'ont le plus accroché, donc je veux savoir ce que veut dire Christophe Comte dans cette piste-là.
Bah, c'est une variation au moins voilà, au moment où ça arrive, c'est pas non plus, oui, c'est pas des chansons.
On est d'accord, j'entends bien les voix sur certains disques, mais c'est presque un instrument comme un autre à ce moment-là. Et c'est vrai que, bon, je l'ai dit pour le premier, mais plus je l'écoute et plus je plonge dans ce disque-là qui, je pense, fait partie des disques que je réécouterai. On se demande toujours quand on fait ces émissions et quand on écrit les articles. Est-ce qu'on va réécouter ça un jour? Daniel Avery, je pense qu'il a sa place au combien. Moi, je trouve qu'il est quand même... Il est sorti aussi quand même d'une zone de confort qui aurait pu être la sienne, de faire Drone for Logic 2 et d'amasser les millions, j'espère pour lui. Je pense qu'il n'est pas tout à fait à plaindre s'il mixe deux ou trois fois par semaine sur la surface du globe, mais il y a quelque chose quand même d'une recherche. Vous disiez tout à l'heure, Christophe Comte, que ça cherchait pas beaucoup. Moi, j'ai l'impression que ça cherche pas, quand même.
Moi, je ne me fie qu'à mon intuition. Quand un disque me surprend pas, je me dis que c'est tout.
Mais après, ce raisonnement habile. Olivier Lam.
Bon, je confirme pour l'avoir rencontré qu'il a beaucoup beaucoup jeté. Il a beaucoup enlevé aussi, parce que c'est vrai que son album, il aurait pu faire la suite de Drone Logic, qui était un disque très réussi dans sa récupération de certains codes de techno psychédélique, Andrew Weatherall, les Chemical Brothers, mais aussi un peu putassier quand même, faut le dire.
Et là, plus jeune.
Bien sûr. Et ce qui est intéressant, c'est que là, il brise les dynamiques en fait des morceaux qui, voilà, un morceau de techno un peu vulgaire, ça monte et ça explose. Là, ça n'explose jamais. Et quand le moment où les choses devraient un peu se mélanger pour arriver à cette explosion, il y a toujours un élément qui vient en remplacer un autre, voire en dissonance, c'est-à-dire changer de mélodie, briser quelque chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'il sort en fait de parce que la musique électronique, elle avance énormément. Tous les mois, il y a un nouveau sous-genre, etc. Il y a des guéguerres, il y a du purisme, etc. Et il est influencé un peu par ça. On sent qu'il suit quand même la musique électronique comme elle avance, et en même temps, on sent qu'il a envie de sortir un peu, se mettre un peu au-dessus de la mêlée, parce que voilà, il a l'occasion aujourd'hui, son nom est reconnu, de pouvoir un peu sortir de la techno d'auteur, il y a un peu ça. Et moi, je trouve ça très intéressant qu'il le fasse sans abandonner le rythme et la danse.
C'est-à-dire on n'est pas dans le disque prétentieux du musicien.
Cette binarité de dire je fais un disque pour la maison, donc j'enlève le rythme. C'est de la techno. Et moi, mes disques de techno domestique, comme on dit, préférés, ce sont des disques de techno qui ont été faits pour le dance floor. Donc, à ce niveau-là, je pense qu'il n'y a pas vraiment de contradiction. Voilà.
Copelia Ménardi, un ou deux avis sur les réseaux sociaux concernant Daniel Avery?
Oui, sur Twitter, un commentaire de Gesamtkunstwerk, je ne suis pas tout à fait sûre de la prononciation sur ce coup, qui dit attendre le nouvel album de Daniel Avery très impatiemment. Enfin, l'internaute Bad Bad Not Good But Very Good In Fact dit que Daniel Avery est en train de devenir un de ses artistes électro préférés.
Bon, ben voilà pour les messages. Il est attendu, il vient de sortir, non, c'est ça l'album, ou on en parle?
Il sort vendredi.
Quel vénard on est. Alors bon, Olivier Lam, il est là depuis le mois de novembre. Il nous l'a bien fait remarquer. Je pense qu'on aura peut-être donné quand même envie à celles et ceux qui l'attendent de guetter, en effet. 6 avril, c'est vendredi, c'est ça?
Oui.
C'est beau. Vous êtes aussi un éphéméride, Christophe Comte. C'est merveilleux. Et Daniel Avery, on pourra le voir sur scène à Lyon le 10 mai dans les Nuits Sonores, le 19 mai à Rennes dans le Mad Festival, le 1er juin à Marseille au Bon Air, 6 juillet à Paris à la Peacock Society et le 20 juillet à Biarritz dans Biarritz en été. Quelques occasions pour entendre aussi Daniel Avery dans le disque Song for Alpha est sorti chez Piass.
France Culture,
La Dispute,
Arnaud Laporte.
Troisième sujet de cette dispute musique avec White Horses, encore un groupe de Manchester qui sort son deuxième album, Empty Words. On écoute tout de suite, c'est eux qui disent The Best of It.
I'm gonna break.
The Best of It, extrait de cet album de White Horses. Alors, ce n'est pas un morceau de White Horses, mais d'un groupe sans doute qu'adore Christophe Comte, Thorin Shield, groupe californien de la fin des années 60. C'est une reprise qu'on va l'entendre. C'est Larroux qui était au chant. On sait quand on entend ces basses-là que vous aimez, hein, Christophe Comte. Je vous le disais pendant la diffusion, ça marche
ouais,
avec vous.
Ouais, hein. Oui, je dois confesser ce péché mignon pour les basses.
J'adore aussi. Ça, hein.
C'est les basses au médiator, hein, c'est ça? C'est comme dans les...
Avec un bout de mousse pour ouais, que ça soit un peu étouffé.
Ouais, c'est le côté chaloupé, quoi.
Alors, j'ai reçu ce disque sans du tout connaître ce groupe.
Vous avez résisté à côté, la pochette.
Je l'ai trouvé pas mal. Ouais. Et je l'ai écouté.
Côté Crosby, Stills, Nash & Young, qui vous a plu.
Et alors, je me suis rendu compte que derrière cet album figurait un garçon qui s'appelle Dom Thomas et qui est le fondateur d'un de mes labels de réédition préférés qui s'appelle Finder Keepers, qui réédite, entre autres, récemment, qui a réédité Les Chemins de Katmandou de Jean-Claude Vanier et Serge Gainsbourg, qui a réédité beaucoup de musique de films de Jean Rollin, l'album de Jean-Claude Vanier, L'Enfant Assassin des Mouches, enfin, qui est un label anglais qui réédite des choses bizarres de chaque pays, y compris de la France, des choses que plus personne n'intéresse en France, eux les récupèrent. Et ils font ça également pour la musique galloise, pour la musique turque. Enfin, il y a des choses absolument formidables sur ce label. Et ce garçon a donc fait ce disque avec cet esprit en tête, de un peu comme les gars de Saint-Étienne, hein, qui eux ont jamais réussi vraiment complètement à aller au bout de leurs idées. Il y a des choses formidables chez Saint-Étienne, mais c'est quand même un groupe, malgré tout, en deçà de ses ambitions. Et là, j'ai trouvé ce disque absolument formidable, un peu long par moment, je dois dire, mais il y a quand même 4-5 titres que j'ai trouvé absolument fantastiques. Celui-là, entre autres, et puis quelques autres. Il y a une Française, Mélanie Pain, qui chante à un moment en français sur un très très beau morceau.
Une des voix de Nouvelle Vague, voilà, hein, Mélanie Pain.
Qui s'appelle « Fear is such a... » quelque chose, avec trois petits points, qui est vraiment un superbe morceau. Il y a le premier aussi qui est fantastique. Je trouve qu'il y a cette réappropriation de toute cette musique des années 60, mais pas que. Il y a quelque chose d'assez contemporain, mais si on dit que les années 80, c'est contemporain. Hein, mais il y a quelque chose de très jouissif. Alors, d'assez rigolo aussi de voir la roue qui revient. C'est la roue tourne.
Le retour de la roue.
Le retour de la roue et le retour de Bad Day Dumb Boy aussi, qui ouais, est dans ouais, le disque. Enfin, c'est un peu j'ai l'impression qu'ils ont repêché des... Ouais. Et en même temps, c'est très charmant. Alors, je relis ça et sans le savoir non plus, en l'écoutant, j'ai tout de suite pensé à un groupe dont on a parlé il y a quelques semaines ici, qui est de Gotim, groupe de Brighton. Et il se trouve qu'il est sur l'album aussi, le gars de Gotim. Il a composé un morceau. Et il y a toujours cette attirance pour ces voix. Alors, si je devais comparer à quelque chose de très récent qui buzz beaucoup et qui est apparemment le groupe sur lequel tout le monde s'est excité pendant à peu près 3 semaines et puis à peu près plus personne, sauf Libération, c'est Super Organism qui était groupe dont vraiment qui allait casser la baraque. Ouais. Et puis l'album est sorti, on s'est rendu compte quand même que il y avait 2 bons singles, mais que le reste c'était quand même un peu du remplissage, vu qu'ils font ça à distance, il y a des fichiers qui ont dû se perdre.
C'est pour ça qu'on s'est excité, hein. Je tiens à remettre les choses.
Ils ont dû se cacher la boîte aux lettres, quoi. Pas la baraque.
Et du coup, là, je trouve que sans cette prétention-là, enfin, sans ce buzz, parce qu'ils sont pour rien, Super Organism, mais il y a quand même eu quelque chose d'un peu exagéré autour d'eux. Je trouve qu'un petit disque modeste reçu par la Poste, il est sorti en Angleterre, il sort le 20 avril en France, donc c'est dire qu'il y a
de l'avance encore.
Oui, mais on peut l'écouter sur les plateformes de streaming. Mais j'ai trouvé cette modestie de moyens affichée et l'écoute de ce disque, la distance entre les deux m'a beaucoup plu, parce que je trouve qu'il y a des morceaux absolument géniaux dessus.
Pascaline Potdevin sur White Horses. Je précise pour celles et ceux qui vont chercher sur leur plateforme que White s'écrit avec un Y. Hein,
ouais, W-H-Y,
voilà.
Oui, bah alors moi, au début, ça m'a fait un petit peu peur, le côté, effectivement, Dom Thomas, Finders Keepers, le côté disque de Digger, en fait. Donc Digger qui va piocher comme ça dans des vinyles obscurs. Ça peut donner quelque chose d'un peu snob, un peu geek, un peu passéiste. Donc ça m'a fait...
Vous parlez de Christophe Comte ?
Pas du tout, non.
Moi, je ne veux pas chercher.
Snob, non, geek et passéiste ? Non, pas du tout.
Non, loin de moi cette idée. Mais donc voilà, moi, ça me faisait un petit peu peur. Pour moi, c'est un disque qui correspond à un double fantasme, en fait. Il y a ce côté, une espèce de volonté de retrouver un paradis perdu, donc cette musique 60s, pop, un petit peu psychédélique, mais là on est plus dans un psychédélisme de fleurs dans les cheveux peut-être, ou de robes à fleurs même plutôt, que de trucs plus noirs et plus drogués. Comme ce qu'on a pu entendre avec Mayenne, avec des garçons avec des pantalons en velours, des filles qui chantent avec des jolies voix un peu naïves comme ça, de préférence française parce que ça rappelle la nouvelle vague et c'est charmant. Donc tout le monde est un petit peu triste et très mignon, ce qui sont un peu les critères de la twipop, ce à quoi se dit, m'y a fait penser aussi, la pop mignonne, un peu à la Belle et Sébastien. Donc il y a ce fantasme-là, un peu nostalgique, le fantasme aussi d'être un producteur qui va réunir autour de lui comme ça des musiciens, des choristes, un peu le fantasme du girls group. Donc, sauf que les fantasmes, c'est pas toujours bien de les réaliser et de les faire partager à d'autres. Et là, ça marche. J'avoue. Oh, voilà.
Quel effet.
Non, j'ai plutôt
aimé.
J'ai
marché. Hein.
Non. Mais mes réserves, c'est qu'effectivement, je trouve que c'est très long. Cette chanson, c'est un peu trop. Mais dans la plupart des chansons, il y a toujours une bonne idée. Donc, il y a effectivement celle qu'on vient d'entendre. Alors, c'est pas une chanson
originale,
mais elle est très bien. Il y en a une autre aussi qui a une reprise.
C'est difficile de faire des bonnes reprises. Hein.
Non, mais c'est vrai, l'autre qui est Greatest Love in Town, qui est une très bonne reprise d'un groupe suisse obscur que je ne connais pas, qui s'appelle Die Weltraumforscher.
Oui,
j'ai deux albums à la
maison. C'était sûr.
Mais voilà, je trouve qu'il y a toujours une bonne idée.
Il y a un album de remix même qui est pas mal avec Mouse on Mars dessus. Pardon, je dis ça en passant.
Il y a toujours une bonne idée. Il y a toujours une mélodie qui est bien écrite, une base justement qui est jolie, des cordes, il y a de la chamber pop à la fin, il y a de la disco aussi à un moment. Il y a toujours quelque chose qui vous accroche. Donc du coup, c'est un fantasme qui finit par avoir un peu de chair. On n'est pas complètement dans la nostalgie. C'est pas un disque, très franchement, que je vais réécouter très souvent, mais je le trouve très attachant. Voilà.
Olivier Lame.
Moi, c'est un groupe que j'avais un peu identifié parce que je chantais dans l'album précédent et même composé pas mal de morceaux, une bordelaise que j'aime beaucoup qui s'appelle Lee Spector, qui chante en anglais, et qui chantait un peu en français, là, en l'occurrence sur le disque précédent, qui s'appelait Pop or Not, mais qui était un disque qui était vraiment pour le coup beaucoup dans l'intention, qui était un disque qui voulait mélanger la mixtape et l'album, qui explosait vraiment dans des références extrêmement précises, etc. Et donc, j'ai quand Christophe a proposé le disque au programme, j'étais j'avais un peu la flemme, j'avoue, et le disque est effectivement par rapport entre ses intentions qui sont vraiment, mais là pour le coup, vraiment un truc de digger maniaque, c'est-à-dire que la manière dont, sur un label, un site anglais qui s'appelle Clash Music, il y a l'album on écoute et il y a une description morceau par morceau des intentions, c'est des pavés comme si Artie Russell écrivait une chanson sur son enfance, une ecstasy song, une chanson sur le jour qui suit la rave party, The Return, qui est une chanson sur The Return, la saison 3 Twin Peaks dont on parlait il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, ce truc un peu... Et en même temps, musicalement, on est vraiment dans un truc complètement débridé, qui m'a rappelé un groupe pour lequel j'avais beaucoup d'attachement, qui s'appelait les Delgado. C'est un groupe écossais.
Dont
les mélodies me manquent toujours. Et aussi un autre groupe qui s'appelait les Doves. Oui. Il se trouve que un membre des Doves joue sur ce disque. Comme quoi, il n'y a pas de... Voilà. Donc, ce qui est fascinant, c'est de...
C'est un tout petit monde. Hein.
C'est de voir comment les gens qui finalement connaissent le mieux la musique ont toujours un peu un cœur de midinette, quoi. Là, on sent qu'il est... on donne un 45 tours de Phil Spector, enfin des Ronettes, et ça suffit. Enfin, il y a un truc, en cherchant des références extrêmement obscures et en reprenant Die Weltraumforscher, un groupe suisse-allemand que pas grand monde ne connaît, finalement, à la fin, on se retrouve avec un disque de pop qu'on peut écouter en voiture, enfin, ou un côté un peu disque couette aussi, couette en hiver.
Ça dépend des plages, parce que avant de voir ce morceau de Return, je m'étais dit, en écoutant le disque, selon les moments, on était, parce qu'on est un peu obsédé par Twin Peaks, au double R, selon les moments au Bang Bang Bar, et selon les moments dans la loge noire. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là, il y a quand même différentes ambiances, c'est pas un disque qui file absolument tout droit, il y a quand même pas mal de variations, et notamment des plages plus courtes qui mettent des ambiances comme The Return, justement. Mais l'ensemble, moi, ça me fait plutôt l'effet d'un paquet de bonbons. C'est-à-dire que c'est bien, mais ça peut être
rigoureux quand même. C'est Pâques, vous savez, c'était spécial Pâques.
Ah, c'est des bonbons, j'ai fait des chocolats. Mais on a plaisir à en manger, mais pas trop, quoi. Ça peut être quand même un peu être écœurant, mais on parle tous de la longueur de l'album. Vraiment,
oui, non, c'est trop long. Moi,
vous le prenez pas mal.
Il y a 5 morceaux. Non, mais en plus, je suis responsable de rien. Je ne touche pas d'argent.
Je croyais que c'était comme ça que ça marchait, la critique musique.
Non, mais je trouve qu'il y a 5-6 morceaux vraiment très...
j'ouvre une enquête tout de suite.
Ouais, non, il y a 5-6 morceaux absolument remarquables, je trouve, d'écriture, d'interprétation aussi. Puis après, bon, il y a des longueurs, mais ça, c'est le lot de tous les disques, hein, mon cher Arnaud.
La plupart.
Je vous rappelle qu'on a écouté Val dans la dernière fois.
Il y a un petit. Je l'entends même plus que dit Christophe Comte. Il y a un petit commandant. On va faire celui de Maître Gims. Ouais, celui qui avait 40 ou 50 plages. Bon, passons à autre chose.
Je ne dis pas qu'il était un peu dur.
Non, mais bon, moi j'ai envie de l'écouter pour autant. Ouais. Coppelia, Ménardier, un petit commentaire.
Oui, sur Twitter, Nice écrit aux joies, on est dimanche, mais c'est comme si on était samedi, les Beach Boys en 2018.
Ah, oulala, tu n'invoqueras point le nom des Beach Boys devant Christophe Comte.
Ah, bah si, pourquoi ?
Si,
pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
Ah oui.
Bon, bah ça fait une sacrée pub
Qu'une église inviolable.
Ouf, enfin, je note cette phrase quand j'écrirai votre biographie. White Horses sort ce disque Empty World chez CRC Records. Ils seront tournés en France à l'automne prochain.
Eh oui.
Quoi ? Vous avez envie, hein ?
Oui, mais c'est loin.
Ah, mais écoutez, d'ici là, il y aura quelque chose qui est merveilleux qui s'appellera l'été. Se rajouter peut-être l'été, on attend, on l'espère. Et on conclut cette émission avec le jeu de la dispute et Camille André qui nous a rejoint comme chaque soir pour d'abord nous rappeler la question du jeu d'hier et nous donner sa réponse, Camille.
Eh bien la question était, en quoi le casting du film western est-il particulier ? Et sa particularité tient au fait qu'aucun des comédiens n'est acteur professionnel.
En effet, et pourtant il y en a beaucoup de très très bons dans ce film dont on avait parlé au moment de sa sortie, dans la dispute. On fait gagner ce soir des invitations pour Nul homme n'est une île, un film de Dominique Marché, ancien critique des Un Rock, qui est aujourd'hui cinéaste et qui est grand prix ce film du Festival de Belfort, ce qui n'est pas rien, il sort demain au cinéma. Quelle est la question pour gagner des places ?
Eh bien le titre du film Nul homme n'est une île est issu du premier vers d'un poème écrit au début du XVIIe siècle. Qui en est l'auteur ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales à envoyer auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations concernant cette émission sont à retrouver sur notre site internet franceculture.fr à la page de la dispute, un site sur lequel vous pouvez réécouter nos émissions et bien sûr vous abonner au podcast. Préparez vos commentaires pour l'émission de demain qui sera consacrée aux arts plastiques. Nous serons à partir de 19h en compagnie d'Anaël Pija, Stéphane Correard et Florian Guettet à notre affiche Black Dolls. La collection de Déborah Neff, c'est à la Maison Rouge à Paris. Kupka, pionnier de l'abstraction au Grand Palais, et puis Marie Cassatt, une impressionniste à Paris, au musée Jacquemart-André.